Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. À l'heure des grandes vacances et après l'épisode Préparer et réussir ses vacances quand on est yogipreneur, c'était l'épisode 51. Je vois aujourd'hui beaucoup d'entre vous lessivés, submergés ou encore démotivés. C'est pour ça que j'ai proposé donc des thématiques en story autour du stress, de la motivation, retrouver la motivation, de l'atteinte de ses objectifs ou encore de la recherche de résultats avec moins d'efforts. Et c'est comment avoir plus de résultats avec moins d'efforts qui vous a le plus mobilisé. Alors c'est bien signe effectivement que les batteries sont complètement à plat quand on cherche à faire le moins d'efforts possible. Si vous cherchez aussi plus de résultats, c'est probablement peut-être que vous vous êtes un petit peu éparpillé et du coup vous n'avez pas réussi à avoir les résultats escomptés, ou alors aussi peut-être qu'on a un petit peu procrastiné pour passer à l'action. Ou encore que votre cerveau, à l'heure où on se parle, il a fini par atteindre le nombre de décisions qu'il était capable de prendre. Et moi aussi, je suis passée par là il y a quelques mois. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer dans cet épisode de voir comment relever ces défis. Ces défis donc dans votre business et dans votre vie pro, qui sont probablement d'ailleurs des défis positifs, mais avec finalement le moins d'efforts possible et en évitant surtout de créer par vous-même votre propre débordement, parce que finalement c'est en réalité ce qui se passe. On est nous-mêmes souvent bien responsables de ce débordement, de cette situation dans laquelle on se met. Alors, avant de vous donner ces quatre conseils, je voulais remercier Aurélia de Sanya Yoga Studio, Sana Yoga Studio, qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast. Et vous le savez, c'est hyper précieux pour moi. Et en plus, ça me fait immensément plaisir de vous lire, parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir vos retours sur le podcast, enfin d'avoir des petits commentaires en direct sur Apple Podcast. Donc Aurélia me dit un grand merci de transmettre vos connaissances et surtout de belles idées pour se renouveler dans son business en ligne. Chaque semaine, j'attends la sortie de votre podcast. Très timide dans ce domaine, j'ai réussi à franchir des étapes grâce à vos conseils. Je procrastinais à laisser un avis, c'est fait, un grand bravo. Eh bien, merci et bravo toi aussi, Aurélia, d'être passée à l'action en me laissant cet avis. Gros cœur sur toi. Alors, c'est parti, on y va. On va aborder le premier conseil qui est tout simplement, alors ça va peut-être vous paraître basique, mais est-ce qu'on le fait vraiment ? Mon premier conseil, ça va être de donner la priorité à son sommeil. En général, quand notre to-do list s'allonge, quand on commence à être débordé, quand on se confronte aussi à de nouvelles compétences du coup qui nous prennent plus de temps et donc on est plus vite submergé, on arrive moins à estimer notre temps de travail, eh ben il est très tentant effectivement de rester éveillé très tard, et vous en avez été témoin puisque c'est des choses que j'ai faites moi aussi sur les mois précédents, et du coup de négliger ces heures de sommeil. Donc en fait, on vient finalement forcer notre système, lui en demander toujours plus. Et si c'est une option qui peut fonctionner à très court terme, eh bien quand on force trop notre rythme biologique, qu'on le contraint trop, au bout d'un moment, la situation elle va finir par s'aggraver et ça va forcément devenir contre-productif. Et alors que finalement, si on arrive à être raisonnable et même si on n'a pas fini une tâche, à se dire « Ok, je reprendrai demain quand j'aurai les idées plus claires » et à aller prendre notre bain de sommeil alors que vous ayez besoin de 6 heures, de 7 heures, de 8 heures ou peut-être de 9 heures, eh bien, c'est là que finalement, on va réussir à finir une tâche sur laquelle la veille on prenait beaucoup plus de temps par exemple, tout simplement parce qu'on accumule la fatigue. Et en fait ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la loi d'Illich. Donc c'est à un moment donné, en fait, à force de trop travailler, on croit que finalement on va atteindre nos objectifs ou on va réussir à finir une mission, une tâche ou autre, et finalement notre seuil de productivité, en fait, il devient négatif. Ça veut dire qu'après avoir passé un certain nombre d'heures à travailler, au final, la productivité, elle diminue de manière significative. Et il y a un point, en fait, à partir duquel on a du mal à maintenir notre attention et on va commencer à faire des erreurs ou, encore une fois, à saturer, à être bloqué, à plus avancer, à plus y voir clair dans ses idées. Et ce qui peut-être nous prendrait une heure en temps normal, finalement, va nous prendre trois heures. Donc, pour ne pas atteindre ce point très élevé de fatigue, la clé, c'est d'organiser correctement ces temps de travail et ces temps de repos, en tout cas, vraiment d'avoir et de planifier ces temps de travail et ces temps de repos. C'est d'ailleurs de là que sont nées toutes les méthodes qu'on connaît aujourd'hui sur les blocs de temps et les temps de pause. Alors, je ne vais pas rentrer dans les méthodes aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer, par exemple, dans le batching, dans la méthode Pomodoro, qui est de prendre tant de temps de pause après tant de temps de travail, etc. Vous pouvez trouver tout ça déjà dans mes contenus ou même sur internet gratuitement, mais juste rappeler que pour avancer dans son business, eh bien, notre cerveau et notre corps ont besoin de repos. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, hein, de se dire bah, je vais me reposer alors que enfin voilà, c'est pas la chose la plus productive à faire, mais finalement, vaut mieux aller se reposer ou aller prendre l'air quand on déborde, quand on sature. C'est un petit peu comme quand vous dites que justement, si on n'a pas le temps de méditer, eh ben, il faut méditer encore plus. Ben, c'est exactement la même chose qui vient s'appliquer off the mat, en dehors du tapis de yoga, et qui vient s'appliquer à votre business. Donc se reposer, avoir des temps de repos, c'est quoi? C'est des vraies pauses dans une journée. Voilà, donc on évite le non-stop devant l'écran, le sandwich entre midi et deux, etc. Prendre une vraie journée off par semaine. Essayer en tout cas voilà, d'avoir une vraie journée off par semaine. Et puis bah, après, par exemple, par mois ou par période de 3 mois, c'est vraiment se planifier une période de plusieurs jours de vacances, vraiment pour se ressourcer et recharger les batteries. Alors, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, je peux te recommander mon épisode 31 qui s'appelle « Mes 5 piliers d'organisation et de productivité ». Et je parle beaucoup justement de comment comprendre, se connaître soi-même, comprendre comment on fonctionne pour ensuite bah, mieux adapter aussi son planning, ses journées de travail, en fonction de notre modèle naturel et de notre rythme biologique. Et ça, vraiment, plus le temps passe, plus je l'observe et plus, effectivement, c'est gage de résultats, avec du coup moins d'efforts parce qu'on ne bah, on force plus le naturel, en fait. On suit le flow, ne serait-ce que du jour et de la nuit. D'ailleurs, je crois qu'en Ayurveda aussi, un des conseils, c'est de se lever avec le soleil. Alors, on est d'accord, c'est pas toujours possible. Mais voilà, ça veut bien dire que c'est des remèdes naturels qui vont favoriser, en fait, notre productivité et nos résultats avec moins d'efforts, puisque finalement, on s'écoute. Et donc, on reste dans quelque chose, justement, on va pas à contre-courant. Alors, mon conseil numéro 2, et ça va pas vous surprendre, c'est de limiter les projets sur lesquels vous travaillez en même temps. Donc, j'imagine que pour la majorité d'entre vous, et comme moi d'ailleurs, hein, vous manquez pas d'idées, vous manquez pas de... Voilà, vous avez envie de mettre plein de choses en place, vous avez de l'ambition, vous avez envie de mettre... de faire naître plein de projets, mais le problème, c'est que vous manquez peut-être un petit peu de patience pour mettre tout ça en place, et j'ai connu ça aussi, notamment dans mon ancienne vie. Et en fait, en vous lançant simultanément dans tous ces projets, bah justement, le risque, ça va plutôt être de s'éparpiller, de diluer son énergie et donc, par conséquent, de diluer aussi ses résultats. Donc, en réduisant au maximum le nombre de projets que vous voulez mettre en place, le nombre d'offres sur lesquelles vous travaillez, et en donnant aussi de la place du coup à d'autres projets plus perso, eh bien ça va vous permettre en fait de réduire considérablement ce stress autour de votre activité et du coup de savourer le chemin plutôt que de le subir. Parce que effectivement, quand on veut faire trop de choses en même temps, du coup on subit tout ce qu'on doit mettre en place, toutes les choses auxquelles il faut penser, etc. Alors que quand on est focus sur un projet, après ça peut être, vous pouvez avoir plusieurs projets dans l'année, mais déterminer voilà un temps et vous consacrer sur un seul projet à la fois. Et ça, ça nous permet justement de savourer, de profiter pleinement de tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est favorable aussi en termes de productivité, de bien-être au travail. Ça génère moins de stress, on vit tout ça beaucoup mieux. Alors, la cause de cette déviance, hein, pourquoi on veut travailler sur plein de projets en même temps? Alors, au-delà du fait de dire « ouais, moi je suis multipassionnée, j'ai envie de créer plein de choses », ok. Mais souvent, c'est aussi parce qu'on regarde ce que les autres font à côté, ce qu'ils sont en train d'accomplir, ce que machin truc chouette est en train de faire. Et puis du coup, soit on a l'impression d'être en retard, soit on a l'impression qu'on va se faire doubler, soit on a l'impression de ne pas faire assez. Mais en réalité, pourquoi vouloir faire pareil que le voisin alors que ta vie, elle est probablement différente de la sienne, ton expérience, tes compétences, ta situation familiale, si tu te compares, par exemple, toi, peut-être maman de plusieurs enfants, peut-être même des enfants en bas âge que tu dois garder avec peut-être quelqu'un qui est célibataire, qui est libre dans ses mouvements, de se déplacer, de travailler quand il veut, etc. Forcément, vous n'allez pas accomplir les mêmes choses. Donc, tu es aussi différent probablement dans tes objectifs, dans tes motivations, c'est-à-dire que ta mission, ton pourquoi et tes motivations à faire ce que tu fais sont probablement pas les mêmes que le voisin non plus. Ta personnalité est différente aussi. Et donc, on peut pas... Enfin, c'est un non-sens en fait de vouloir faire pareil alors qu'on a toutes ces caractéristiques-là qui sont complètement différentes. Et souvent, rentrer dans ce phénomène et dans ce mécanisme, en fait, du coup, va te faire perdre de vue, toi, tes vraies priorités, ce que toi, t'as envie d'accomplir réellement. Donc, un conseil, enfin, en tout cas, si ça peut te rassurer, t'as pas besoin de tout faire et encore moins besoin de tout faire en même temps, en fait, pour te sentir bien dans ta vie et dans ton business, au contraire. Donc, moins d'efforts en étant plus focus t'apportera, du coup, plus de résultats aussi. Alors, si tu veux aller plus loin sur comment définir tes priorités et tes objectifs, je te recommande l'épisode 26 de YogiBiz Podcast. Donc, dedans, je donne, en fait, ma méthode pour planifier ton année 2021, mais en fait, c'est la méthode du quarterly planning. Donc, ça fonctionne par trimestre. Du coup, tu peux tout à fait l'utiliser, par exemple, pour organiser ta rentrée. Et en fait, donc c'est le titre de l'épisode, c'est ma méthode pour planifier ton année 2021 et atteindre tes objectifs avec le quarterly planning. Donc, tu vas apprendre en fait à découper un gros objectif justement sur plusieurs mois, sur 3 mois en l'occurrence, puis sur 1 mois, puis sur une semaine, jusqu'à avoir des tâches concrètes à réaliser au jour le jour. Et en fait, le fait de te concentrer à ces tâches à l'instant présent en fait, et des tâches qui sont du coup des petites actions beaucoup plus atteignables et réalisables, mais au service d'un objectif, lui, qui est plus ambitieux, eh bien du coup ça va te permettre d'atteindre justement cet objectif sans t'en rendre compte. En fait, tu vas créer un petit peu des ponts entre tes actions du quotidien et cet objectif ambitieux, donc un peu des objectifs intermédiaires, enfin des actions intermédiaires. Et ça, ça va te permettre encore une fois, voilà, justement, d'être focus, d'accomplir les choses plus facilement et donc d'avoir plus de résultats avec, encore une fois, moins d'efforts, parce que c'est tout l'objet de notre épisode. Mon conseil numéro 3, c'est de faire une détox, mais une détox de contenu. Et je pourrais même rajouter, du coup, une détox des réseaux et de tout ce bruit en fait. Donc je pense que quand on se sent submergé, quand on se sent en perte de vitesse, on a malheureusement un réflexe complètement contre-productif qui est d'aller voir encore plus ce qui se passe ailleurs, de scroller encore plus nos réseaux, peut-être, je sais pas, pour se rassurer, de regarder encore plus nos mails et de consommer encore et encore plus de contenu, soit pour s'inspirer, soit pour peut-être trouver des idées, pour se rassurer ou pour se faire du mal, je sais pas. Mais résultat, au lieu d'écouter réellement nos envies, de se ressourcer en retournant vers un petit peu vers nous-mêmes, vers notre intérieur, vers nos envies et de relancer la machine, et bien finalement on finit par perdre encore plus le contrôle, par perdre encore plus de temps, et puis on vient effectivement ajouter du bruit dans nos pensées. Donc là, pour le coup, on est carrément hyper loin de l'arrêt des fluctuations du mental, pour y voir plus clair. Et pourtant, quand on est dans cette phase-là, c'est ce qu'on recherche. Donc, évidemment, j'ai déjà pour habitude de recommander d'arrêter toutes les notifications, de laisser son téléphone hors de portée de main quand on travaille, etc. Mais à un moment donné, il faut peut-être une action un peu plus coup de poing. Et si tu as besoin de retrouver de l'efficacité dans ta création, de reposer un peu ton mental, ton esprit, de retrouver ta propre inspiration, de recharger tes batteries, vraiment, moi, je te conseille carrément, et j'ai pas peur de le dire, de ne plus consommer aucun contenu pendant quelques jours. Donc plus de podcasts, plus de vidéos YouTube, même plus de TED Talk, de TEDx, plus de newsletters, plus rien, de plus scroller. Alors si tu te sens capable de désactiver tes applications sur ton téléphone, là c'est le summum et c'est encore mieux. Mais même sans ça, voilà, c'est de te donner une deadline et de te dire, alors ça peut être justement à profiter des vacances pour se dire, voilà, je ne consomme aucun contenu autour de ma thématique pendant les vacances, ou même autour de plusieurs thématiques, ça peut être vraiment d'aller chercher l'oisiveté, j'ai presque envie de dire l'ennui, mais c'est probablement ce qui te permettra de te régénérer aussi. Donc voilà, je suis même, j'en parlais le jour à mes élèves, une coach business anglaise qui a supprimé carrément tous ses abonnements Instagram. Donc en fait, elle avait, 1000 ou 2000, elle était abonnée à, 1000 comptes peut-être sur Instagram, et en fait elle a vraiment mis ses abonnements à zéro le temps de travailler sur son nouveau programme d'accompagnement, en fait, dans l'idée justement de plus du tout être tentée de regarder sur ce qui se passait dans son feed, sur ce qui se passait chez ses consoeurs ou ses confrères aussi évidemment, et du coup voilà, de concentrer ses efforts, encore une fois, d'être focus, de pas se disperser, de pas disperser son énergie. Et ce qui fait que forcément, là aussi, du coup, on a plus de résultats, plus d'inspiration, les idées reviennent, etc. Et le tout avec moins d'efforts, parce qu'en fait, c'est juste en laissant un peu libre cours et en se ressourçant par nous-mêmes et en revenant un peu à nous-mêmes que finalement on va retrouver du jus. Donc, ça permet de se concentrer plus facilement, de retrouver son ancrage et puis de retrouver aussi un petit peu de disque dur dans son cerveau. Et moi, je sais que maintenant, c'est des choses que je fais très facilement et je dois avouer qu'effectivement, ça m'aide beaucoup quand je me concentre sur des produits, donc mon programme ou par exemple les masterclass, les summerclass, etc. Dernier conseil, c'est le principe de Pareto. Donc si vous m'écoutez régulièrement, il ne vous est pas inconnu, ce principe de Pareto. Et alors, je vois souvent, même au sein de mes élèves, parce que en fait c'est un syndrome qui reflète la peur de passer à l'action, je vois souvent de la procrastination active et le fait de passer 80% de son temps à dépenser son énergie sur des actions, des tâches qui finalement vont apporter que 20% des résultats au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire de se concentrer sur 20% des causes qui vont apporter 80% de conséquences. Donc bien évidemment que l'effort et la persévérance sont nécessaires, et vous savez que c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, l'effort, la persévérance, la régularité. Mais ce principe, le principe de Pareto, il implique de répartir le temps d'une manière sensée en justement renforçant ses efforts sur ce qui va générer un plus grand bénéfice, ou en tout cas en limitant les efforts qu'on met sur des actions qui ne changeront pas la donne in fine. Ok, donc en fait c'est le principe d'un effort sélectif. Et alors, si tu as besoin d'un repère par rapport à ça, ben je te recommande par exemple d'être attentive aux éléments qui ont déjà fait leur preuve dans ton business. Essaye d'observer où, par exemple, dans quel environnement tu es le plus productif, parce que des fois, c'est pas forcément à son bureau, par exemple. Comment, donc c'est-à-dire avec quelles actions et quel état d'esprit, quelles actions tu as fait et dans quel état d'esprit tu étais quand tu as peut-être déjà réussi quelque chose ou eu des bons résultats, quand aussi, parce que peut-être que il y a des saisons qui te sont plus favorables ou des périodes, et avec qui, quelles étaient les personnes qui t'entouraient à ce moment-là, parce que ça aussi ça peut être vraiment un vrai levier et un moteur de réussite. Donc avec qui, où, quand et comment tu as déjà obtenu le plus et le plus facilement des résultats, en tout cas les résultats que tu cherchais à atteindre. Et l'idée, en fait, c'est que plutôt que d'essayer plein de nouvelles stratégies et de même pas te laisser le temps, en fait, d'essayer une stratégie qui fonctionne, eh bien, c'est de chercher à reproduire et à optimiser ce qui a déjà marché pour toi. Donc, de recréer, en fait, les conditions de ce succès et finalement de les optimiser. Si tu n'as pas de point de comparaison encore, eh bien, à ce moment-là, si tu as choisi de suivre une stratégie, suis-la jusqu'au bout. Et laisse-lui le temps de faire ses preuves, et aussi écoute bien, entre guillemets, enfin valide bien que tu suis bien justement cette stratégie, que t'en fais quand même pas qu'à ta tête. Alors attention, il faut aussi que ce soit aligné avec toi. Mais j'ai par exemple un exemple donc dans mon programme où je recommande de créer un lead magnet en lien avec son offre pour créer déjà un réservoir de prospects qualifiés, susceptibles donc d'être des clients acheteurs plusieurs mois plus tard quand on va lancer son programme. Et ce fameux lead magnet doit être un quick win, donc ça doit être quelque chose de consommable rapidement, et ça doit être quelque chose dont mon client a besoin. C'est la première étape en fait pour travailler ensuite avec moi. Donc c'est un petit peu une manière de lever des croyances limitantes, ou voilà, de répondre à des questions qui pourraient intervenir, et donc au moins ces questions-là n'interviendront pas au moment du lancement, et ainsi de suite. Et finalement, quand c'est la première fois peut-être qu'on crée un lead magnet ou quoi, on peut avoir tendance à vouloir faire quelque chose de trop parfait, à vouloir donner un maximum de contenu, et du coup on va passer un temps énorme, et en plus sur quelque chose qui n'est pas forcément dans nos compétences à la base, peut-être d'utiliser tous ces outils qui sont nécessaires à la création d'une lead magnet. Et en fait, ça pour moi c'est de la procrastination active, parce que logiquement, voilà, je le dis très clairement, ce lead magnet ça doit être un quick win. Ça doit être simple et ça doit vraiment servir notre business. Et du coup, on doit lancer ça très vite. Et si je passe plus d'une journée à créer mon lead magnet, alors bon, je veux bien qu'au début, ça soit peut-être 2-3 jours. Bah, quelque part, voilà, je rentre un peu dans un phénomène de procrastination active. Au même titre que quand je me dis, ça y est, j'ai bien tout planifié mes posts Instagram, mais je ne fais que ça. Eh bien, ça suffira pas pour créer de l'engagement, pour trouver des nouveaux clients, pour attirer les gens vers moi. Donc, je me donne bonne conscience en me disant, ça y est, j'ai tous mes posts bien fignolés, bien parfaits, je publie tous les jours, etc. Mais si je m'arrête là, c'est pas suffisant, et la stratégie elle dit pas qu'il faut s'arrêter là. Donc voilà, quand je mets en place une stratégie, bah du coup, si c'est un process qui fonctionne, qui a fait ses preuves, je vais le suivre quelque part de A à Z, même si je vais l'adapter à moi évidemment sur certains points, mais je vais aussi donner la chance à cette stratégie de fonctionner et lui laisser le temps de faire ses preuves. Ok, donc ça c'est plutôt dans le cas où t'as pas forcément d'éléments de référence, où t'as déjà eu des succès, des choses qui ont déjà fait ses preuves, donc tu peux pas forcément recréer les conditions de ce succès. Alors après, attention, ça peut être aussi des conditions du succès que t'as observé dans un autre domaine d'activité ou autre, et que tu peux adapter à ton business de yoga aujourd'hui, ça marchera aussi. Mais sinon, effectivement, donc si tu débutes et que tu choisis de te faire accompagner et de suivre une stratégie, bah, l'idée, c'est de pas s'éparpiller sur les autres ou les nouvelles stratégies, parce que de toute façon, il n'y a pas de stratégie miracle, mais plutôt voilà, de bien t'approprier cette stratégie et de lui laisser le temps de faire ses preuves. Donc voilà en tout cas 4 remèdes qui devraient te permettre d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts, moins de bruit, moins de frustration, moins de perte de temps, moins de dispersion. Donc si on résume, c'est de donner la priorité à ton sommeil et suivre ton rythme et tes besoins naturels, quoi qu'il en soit, first. On peut aussi ajouter à ça, moi je sais que dans ma routine, entre guillemets, j'ai aussi j'ai besoin de mouvement, donc je vais avoir du yoga ou de la marche ou de la course à pied tous les jours. Mais j'ai quand même constaté que le sommeil, c'était vraiment la priorité pour que je sois plus efficace et en faisant du coup moins d'efforts. Deuxième conseil, donc limiter tes projets sur lesquels tu travailles en même temps, même si tu es une multipassionnée, on est en business et on doit être efficace, donc vraiment se concentrer sur un projet à la fois. Troisième conseil, faire une détox de contenu et des réseaux pour te réaligner avec ta vision, ta mission, tes priorités, ton inspiration, ta créativité et pas celle des autres. Et puis enfin, laisser de côté le perfectionnisme et la procrastination active, donc notamment avec le principe de Pareto, en identifiant les 20% d'efforts sur lesquels tu dois te concentrer et qui t'apporteront 80% de tes résultats. Donc un dernier point par rapport à tout ça, si ta priorité c'est ta visibilité, justement peut-être on le disait tout à l'heure, si tu débutes, si tu n'as pas de point de repère justement par rapport à recréer ces conditions du succès et que ta priorité absolue là c'est ta visibilité et de te faire connaître pour gagner des nouveaux clients ou trouver justement plus d'élèves en continu avec moins d'efforts de contenu et assez rapidement, je te recommande du coup de t'inscrire aux 3 summer class gratuites que j'organise cet été. Donc tu peux t'inscrire directement en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. Dès que tu vas t'inscrire, tu recevras immédiatement dans ta boîte mail le replay de la première masterclass. Donc regarde bien dans tes spams ou dans les mails promotion, c'était sur Gmail. Donc tu auras automatiquement le replay parce que la première summer class, elle a eu lieu le 15 juillet. Donc tu pourras déjà te remettre à jour par rapport à cette première masterclass. Et puis ensuite, tu recevras les prochaines invitations du coup pour la masterclass du 29 juillet et la masterclass du 5 août. C'est complètement gratuit et tu repartiras avec un plan d'action clé en main. Et ça pourra faire partie justement des 20% d'efforts sur lesquels tu te concentreras pour avoir 80% de résultats, parce que tu verras, c'est une stratégie win-win, gagnant-gagnant, la visibilité, en tout cas ce qu'on voit dans les summer class, pour t'aider à te faire connaître plus vite et à trouver donc des nouveaux élèves, des nouveaux clients, pouvoir enseigner ton yoga plus vite aussi. Donc cet épisode marque également la trêve estivale de YogiBiz Podcast. J'ai l'immense plaisir de mettre le podcast en pause jusqu'à la rentrée, jusqu'au mercredi 25 août. Alors je dis l'immense plaisir parce que c'est aussi signe pour moi d'une grande sérénité et de bien plus de maturité dans mon business d'arriver à assumer cette pause, parce que je suis comme vous, je passe par les mêmes étapes que vous, et donc réussir aujourd'hui à assumer de prendre un mois de vacances pour le podcast, eh bien c'est pour moi une vraie réussite. Donc voilà, j'ai pas peur des algorithmes, j'ai pas peur d'être remplacée, j'ai pas la peur de louper quelque chose en étant absente, le fameux FOMO, fear of missing out. Donc au contraire, j'applique à mon business les conseils que je te donne au quotidien, et si ça peut toi aussi t'inspirer et déculpabiliser sur ce point pour que tu profites pleinement d'une trêve cet été, de tes vacances, de ta famille, que tu réussisses à t'ennuyer, eh bien ça sera une grande satisfaction pour moi, même si bien évidemment hein, je ne regrette rien des situations de débordement que j'ai connues puisqu'elles m'ont beaucoup apprise, et c'est grâce à ces situations que j'en suis là aussi aujourd'hui. Donc on reste en contact grâce et avec les summer class du coup, et probablement en story sur Instagram. Ça sera du coup certainement des stories plus en mode holidays et moins business. Mais bon, je t'emmènerai probablement en vacances avec moi. D'ici là, porte-toi bien, passe de bonnes vacances. Bye bye.